Bonjour, je m'appelle Christophe Grapron. J'ai été un temps chanteur, je le suis encore un tout petit peu, mais je dirige essentiellement en ce moment des ensembles instrumentaux et vocaux. La direction de chœur me passionne tout particulièrement et occupe une place très importante dans mon parcours professionnel. La direction à double titre, d'abord celle qu'on entend, la direction classique, c'est-à-dire la posture que l'on connaît d'un chef, ou je préfère le terme de conducteur, face à un ensemble qu'on appelle souvent en français chœur ou chorale. Le mot anglais est très beau, choir. Et de l'autre côté, ce que j'appelle l'anti-direction, c'est-à-dire ce qui consiste à créer ou à entretenir des conditions dans lesquelles les gens peuvent chanter ensemble. Comme j'ai la chance de vous parler dans cette tribune d'un sujet qui me passionne, le chanter ensemble, et de vous le présenter sous une facette un peu nouvelle pour moi, qui est de penser le chanter ensemble dans l'histoire de la musique. Cela m'a permis finalement d'élaborer des problématiques que nous rencontrons encore à notre époque pour que les uns et les autres puissent chanter, et mieux encore, chanter ensemble. Je suis sans cesse émerveillé par le chant réalisé à plusieurs, et finalement, quel qu'en soit le cadre. Les systèmes de relations entre humains que le chœur, que le chanter ensemble, façonne, donnent beaucoup d'optimisme, je trouve, à notre capacité de sanctifier, d'inventer notre humanité, et dans une certaine mesure, à accéder à des formes de transcendance, dont par exemple l'expérience du beau, que j'ai pu vivre, jeune et en pleine conscience, grâce au chant choral. J'ai intitulé cette petite causerie « Chanter ensemble, une manière de comprendre » et de faire l'histoire de la musique. Je commencerai par le chanter, comme une sorte d'invariable durant l'histoire, et je terminerai par le ensemble, comme une variable qui peut établir un marqueur historique. Par exemple, je considère que le chanteur est une sorte de cantus humanis, c'est-à-dire d'un humain chantant. Ce corps humain est resté sensiblement le même dans notre histoire musicale, et les changements sont trop à la marge pour que l'on puisse entendre des différences significatives dans notre examen. Dans le même temps, il est toujours étonnant de voir et d'entendre qu'avec le même corps humain, les manières de chanter sont si différentes avec le temps et à travers le globe. Évidemment, chaque chanteur, j'aime dire chaque humain, a sa propre identité sonore qu'on mesure au timbre de la voix, par exemple, et qui traduit parfois trahit notre signature personnelle, voire intime, de nous-mêmes. Donc je propose qu'on se limite à travers le temps à notre histoire de la musique écrite, c'est-à-dire celle qui commence à peu près à partir de 900, là où on a les premiers neumes musicaux, et de se cantonner à l'Europe. Le sujet serait vraiment très vaste si on élargissait. Je propose de prendre le prisme de avec qui je chante pour faire un tour évidemment rapide des étapes qui jalonnent l'histoire de la musique. Par exemple, on prend souvent pour représenter l'histoire de la musique l'optique des époques. On appelle parfois ça des styles de musique. Par exemple, le style médiéval, ou l'époque Renaissance, le style classique, etc., etc., ou baroque. Pour permettre de comprendre comment on conçoit et comment on interprète la musique. Par exemple, avec l'Orfeo de Monteverdi, début du XVIIe siècle. Cette seconde pratique inventée par Monteverdi et quelques autres compositeurs est en fait une approche esthétique de la musique, pour que l'affect, c'est-à-dire le sentiment que nous sommes en train de développer dans l'art musical, soit perçu par l'auditeur le plus directement possible, sans une nécessaire construction polyphonique qui alors est jugée comme trop complexe. Si on regarde du côté de l'identification, on s'aperçoit qu'effectivement, entre un chanteur et un auditeur, ça va matcher tout de suite. Ici, on fait un pas de côté pour examiner rapidement la manière de chanter avec d'autres. Par exemple, à cette même époque, Monteverdi compose des madrigaux à plusieurs voix, souvent à cinq voix. Ces madrigaux expliquent l'affect, souvent l'affect amoureux. Et Monteverdi se dit, au lieu que cinq chanteurs chantent, faisons chanter un seul des chanteurs. Vous voyez que l'effectif, passé de cinq à un, c'est-à-dire avec qui je chante, est-ce que le chanteur va chanter avec d'autres chanteurs ou tout seul accompagné d'instrumentistes, ce qui est assez nouveau pour l'époque, est une manière, finalement, de jalonner l'histoire de la musique. Je ne parlerai pas, alors que c'est pour moi un sujet très important, des sujets psychologiques, parfois presque psychanalytiques du chant, qui gèrent aussi le chanter ensemble. L'examen est passionnant et pourrait nous occuper très longtemps. Je l'effleurerai de temps en temps, juste pour rappeler que la tentative que je fais d'examiner factuellement ce chanter ensemble à travers l'histoire de la musique est en fait sujette à une sorte de contre-analyse, comme une sorte de contre-champ psychologique. Pour commencer, regardons ce qui ne varie pas. Donc le chanteur, c'est ce que j'appelle moi le cantus hominis, l'humain chantant, que je caractérise par la cohabitation simultanée de trois domaines ou de trois items, c'est très difficile à caractériser. Ces trois domaines cohabitent simultanément au même endroit dans le chanteur. Il s'agit du musicien, de l'instrument et du luthier. Prenons par exemple l'histoire d'un pianiste. Si je veux être pianiste, il me faut un piano. Je ne peux pas être pianiste si je n'ai jamais eu de piano, si je n'ai pas de piano. Uniquement dans mon imagination, je pourrais être pianiste, éventuellement. Mais il me faut l'instrument pour devenir pianiste. Cet instrument a également été fabriqué, et fabriqué par un luthier. De temps en temps, dans l'histoire, le musicien est lui-même facteur d'instrument. Mais c'est rare. Le facteur d'instrument est toujours musicien de l'instrument qu'il fabrique. Mais il n'est pas aussi musicien que le musicien qui passe son temps à être musicien. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps consacré à l'apprentissage d'un instrument est autant de temps que nous n'avons pas pour élaborer l'art de fabriquer des instruments, et réciproquement. Donc nous avons bien trois états, trois domaines, qui sont l'instrumentiste, le musicien, l'instrument et le luthier. Chez le chanteur, ces trois domaines sont réunis en un seul, le chanteur. Quand je chante, c'est la réunion de ces trois états au même temps, au même endroit. C'est cette réunion qui, entre autres, donne à la voix ce caractère si puissant, mais en même temps si fragile. Une autre énigme du chanteur qui découle de cette réunion des trois domaines, c'est que le chanteur ne peut pas voir l'instrument qu'il est en train de jouer. Il ne peut que le sentir. En fait, il ne peut que le ressentir exactement. Par exemple, je ne peux pas sortir mon larynx pour savoir ce qu'il fait quand je monte dans les aigus, quand je chante dans les aigus. L'autre exemple, un peu moins immédiat, mais on entend souvent dans notre entourage « Moi, je ne veux pas chanter, de toute façon, je chante faux. » On peut se poser la question de qui parle réellement. Est-ce que c'est le luthier qui, par exemple, se met en grève parce qu'il a peur de régler son instrument, il a peur de ne pas le régler comme il faut, surtout? Est-ce que c'est de l'instrument dont il s'agit? On finit par croire qu'il est mauvais, effectivement. Ou est-ce que c'est la personne humaine qui refuse de participer à une expérience artistique qui risque de la déranger? Prenons chacun des trois domaines. Commençons par l'instrument, la voix. Vous le connaissez, évidemment, vous connaissez ça, mais disons que le son est une vibration, et on va dire que pour nous, c'est une vibration qui résonne. Et c'est important d'avoir la résonance. Donc, si je prends par exemple un violon, je prends une corde de violon et j'essaye de la pincer, par exemple avec les dents, il ne se passera pas grand-chose, on va entendre « dong », c'est tout. Si je la tends sur le violon et que je fais un pizzicato, que je pince avec le doigt, par exemple, je vais entendre finalement une note. C'est-à-dire que la corde tendue a besoin de la caisse de résonance du violon. D'ailleurs, cette même corde, si je la déplace sur un autre violon, elle sonnera différemment. La caisse de résonance va amplifier la résonance de la corde et va la teinter, va lui donner un timbre. C'est exactement comme ça que nous chantons. Donc nous sommes un instrument avant, l'air vient des poumons, nous soufflons. On pourrait faire dans le sens inverse, mais c'est beaucoup plus compliqué. Disons qu'en Europe, pour chanter, on souffle. L'air passe à travers les cordes vocales, font vibrer les cordes vocales. La vibration qui résulte de cette corde vocale est amplifiée et timbrée par toutes les résonances de la cavité, des cavités osseuses, de la tête et plus largement du corps. Ce qui sort des deux cordes vocales, c'est un peu ce qui sortirait des lèvres d'un trompettiste, d'un tromboniste ou d'un corniste. C'est « Ça, c'est ce qui se passe à peu près dans mes cordes vocales. L'air passe par les cordes vocales, fait vibrer les deux cordes vocales pour que ça devienne. Il a fallu que cette soit traitée comme une sorte d'amplificateur par toutes les conformations de la tête. Et surtout par trois éléments primordiaux qui sont l'espace de la bouche, la langue et la conformation des lèvres. À la sortie des cordes vocales, ça a toujours été. Mais ma forme de bouche, forme de lèvres, forme de langue ont fait que j'ai pu entendre un O ou un I, etc., etc. Ça, c'est l'instrument. C'est mon instrument. C'est comme ça que je vibre. La lutherie est un peu plus difficile à dire. Parce qu'en fait, nous sommes luthiers depuis le moment où nous sommes nés, mais sans le savoir. Et plus nous grandissons, plus les choses que nous faisons par rapport à la voix sont aussi se font de manière inconsciente. Donc, on est luthier sans le savoir, d'une certaine façon. Si on regarde les chanteurs vivre, on s'aperçoit qu'ils ont quelques points communs avec des sportifs. Et que l'entraînement qu'ils ont de leurs muscles, les muscles abdominaux pour le souffle, intercostaux, les cordes vocales, naturellement, la bouche, l'utilisation de ces muscles demande de leur part beaucoup de précision et leur demande un entraînement, comme un sportif. Cette hygiène, on va dire, de vie, de travail, ressemble à une forme de lutherie. Dernier point sur la lutherie que je voulais vous faire entendre, c'est comment est-ce que j'arrive à faire résonner. Vous savez que dans le violon, il y a une petite pièce qui est très importante qui s'appelle l'âme. L'âme, c'est ce petit bout de bois qui relie la table au fond. C'est-à-dire le grand morceau de bois sur lequel repose le chevalet et le fond du violon. Et ce petit bout de bois associe ces deux parties de bois. La position de l'âme du violon caractérise le timbre que va avoir le violon. Nous avons cette chose-là aussi en nous. Par exemple, si je fais une pause de son, ce son, je peux essayer de le faire résonner davantage. Peut-être pensez-vous que j'ai fait plus fort. C'est pas faux, mais je n'ai pas pensé plus fort. J'ai pensé plus résonnant. Écoutez comment la couleur, l'enrichissement du son intervient. Je ne pense donc pas crescendo, je ne pense pas un élément musical, je pense un élément résonnant. Vous voyez, je suis en faisant ça, d'une certaine façon, luthier. Je me mets en résonance. Concernant le musicien, le chanteur musicien, celui qui est en même temps un peu artisan et en même temps artiste, on aurait énormément à dire, en définitive, sur ce musicien chanteur. D'abord parce qu'il doit contrôler la hauteur, la durée, le timbre, sans avoir aucun contrôle visuel sur ce qu'il est en train de faire. Ensuite, parce que le chanteur, finalement, ne réagit qu'à ses propres sensations, et que ces sensations peuvent changer d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. C'est dire la complexité, par exemple, de l'apprentissage du chant. On apprend quelque chose qu'on ne peut pas sentir, qu'on est obligé de ressentir, qu'on ne peut pas voir. Et plus spécifiquement, par rapport à ce qui nous intéresse, ça détermine les enjeux spécifiques du chanteur ensemble. Quand je chante je vais peut-être moins inviter les gens à chanter avec moi que si je fais À partir du moment où je résonne, je vais inviter davantage de gens à être empathiques et résonner avec moi. Je vais régler par là un certain nombre de problèmes de justesse, un certain nombre de problèmes de mise en place entre les chanteurs parce que ma voix résonne. Faisons un pas de côté pour illustrer cela aussi. Le chant occidental, qu'on nomme couramment lyrique, mais en fait qui est beaucoup plus kaléidoscopique que cela, s'est donné deux contingences majeures. On pourrait en trouver beaucoup d'autres, mais disons, il y en a deux majeures. La première, c'est de faire sonner la voix dans de grands espaces. C'est-à-dire que mon chant est un chant qui doit, sans artifice, est un chant qui doit s'entendre, c'est-à-dire être perçu et compris. La deuxième contingence, c'est d'avoir la même voix sur tout mon chant, c'est-à-dire d'unifier les registres. Je passe vite sur cette notion de registre qui pourrait nous occuper de nombreuses minutes. Mais disons que ces deux contingences, puissance et homogénéité, créent des spécificités de notre chant occidental. C'est tout le principe des techniques vocales élaborées en Europe qui permettent à chacun, la technique est faite pour chacun, de remplir ces deux conditions. Évidemment, on y arrive avec plus ou moins d'habileté. Je vous propose deux exemples. Voici par exemple concernant l'unification des registres. Voici une gamme, c'est-à-dire une succession de hauteurs de sons, dont une technique permet d'unifier, d'entendre une certaine continuité. Sans cette technique, voici la même gamme, mais on va entendre des registres beaucoup, avec des couleurs beaucoup plus exacerbées, comme si j'avais finalement plusieurs voix. Concernant l'intensité, voici un chant que je chante pour moi. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Voici maintenant un chant que j'offre pour un cénacle devant moi. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Je résonne davantage. Je suis davantage puissant. Ce que j'ai gagné en homogénéité et en puissance, en homogénéité donc en identification, c'est-à-dire qu'on peut me reconnaître facilement, en puissance, c'est-à-dire qu'on peut me reconnaître de loin, je l'ai évidemment perdu en palette, en typicité, on va dire, de ma voix. Je vous propose, par exemple, quand vous aurez le temps, d'écouter une chanson que je trouve assez symptomatique et qui illustre parfaitement les typicités de voix que nous avons à notre époque, par exemple, dans la variété. Le chanteur Oldelaf, dans la chanson « Et si on chantait ?», qui prend plein de couleurs différentes. Mais ces couleurs-là n'ont pas du tout les deux contingences, ne remplissent pas les deux contingences d'uniformité des registres et de puissance. Passons maintenant au fait de chanter ensemble. C'est-à-dire, répondons à la question, avec qui chantes-tu ? Avec qui chantes-tu ? Ça, c'est peut-être une manière, effectivement, de voir l'histoire de la musique, de faire l'histoire de la musique. Il y a d'autres questions parallèles ou connexes, on va dire, avec qui à la question « avec qui chantes-tu ?» Il y a la question, par exemple, « où chantes-tu » Est-ce que c'est à l'église ? Est-ce que c'est au stade ? Est-ce que c'est au théâtre ? Chantes-tu dans la rue ? En famille ? Sous la douche ? Une autre question, un autre type de question, c'est « quand chantes-tu ? » Tout le temps ? Jamais. Uniquement quand je suis payé ? Quand je vais bien ? Ou quand je vais mal ? Troisième question, c'est comment chantes-tu ? Est-ce que tu chantes fort ? Est-ce que tu chantes en murmurant ? En fredonnant ? Enfin, pour terminer, parce que la liste pourrait être longue, qu'est-ce que tu chantes ? Des cantiques ? Des madrigaux ? Des chansons ? Du drame ? Etc. Vous voyez que quand on répond à ces questions, finalement, on se dévoile déjà beaucoup. Avec qui chantes-tu dévoile aussi une manière de quand, dans quelle époque je me situe. Je soulignerai deux aspects. D'abord, le chant a toujours été dans nos civilisations. Il est omniprésent dans tous les événements, qu'ils soient grandioses, publics ou privés, intimes. Du point de vue social, on a toujours chanté et on chantera toujours. Imaginons un monde où personne ne chanterait, je pense que nous arriverions à des résultats assez proches des expériences malheureuses sur le langage que vous connaissez peut-être de Frédéric II de Hohenstaufen au XIIIe siècle. La question qu'on peut se poser juste après, avec qui chantes-tu, sont par exemple, tu chantes avec d'autres chanteurs ? Est-ce que tu chantes avec d'autres instrumentistes ? Est-ce que tu chantes la même chose que les autres avec qui tu chantes ? Ou est-ce que tu chantes une autre musique ? Déjà, l'arrangement de ces quatre questions va nous faire un certain nombre de possibilités. Il y a d'autres combinaisons encore supplémentaires que je voudrais vous montrer. Par exemple, on peut imaginer que plein de chanteurs chantent tous une même voix, que quelques chanteurs chantent une voix, mais chacun chante une voix différente. Et quelques instruments jouent avec eux. C'est par exemple ce qu'on a à l'époque baroque. À l'époque baroque, les chanteurs vont être souvent seuls dans leur voix, vont chanter des voix différentes. Prenons par exemple un chœur du Messie de Handel. Certains chœurs vont être accompagnés uniquement par le continuo. Donc c'est que quelques instruments qui vont jouer accompagnant les chanteurs qui vont avoir, eux, une polyphonie très écrite. Prenons un autre exemple, un groupe de chanteurs, cette fois-ci, qui peut être assez nombreux, accompagné par plusieurs instruments. Par exemple, on a cette combinaison assez fréquente dans l'opéra du 19e siècle. Va Pensiero, le chœur des esclaves de Nabucco. Le chœur tout entier chante d'une seule voix. Va Pensiero. Tous les chanteurs chantent la même chose. Et l'orchestre, lui, accompagne de manière extrêmement fleurie. Vous avez les des cordes. Donc avec plein de notes qui viennent accompagner le Va Pensiero qui est chanté de manière unanime par le chœur. Vous voyez que c'est une manière de dissocier deux époques. Quelques chanteurs qui chantent des voix toutes différentes ou beaucoup de chanteurs qui chantent tous la même voix. Observons quand les chanteurs chantent en groupe la même chose ou à partir du moment où ils s'individualisent pour chanter seul dans la voix, dans une polyphonie. Par exemple, on pourrait dire que toutes ces formes ont existé dans l'histoire de la musique, mais un examen un peu plus attentif va nous montrer quelques petites tendances fortes. Je vous propose de balayer très rapidement. Transportons-nous dans les environs de Paris, à la fin du XIIe siècle. La liturgie est essentiellement chantée par des clercs, ce que nous appelons du chant grégorien, qui est en réalité du plein chant, P-L-A-I-N, chant, qui est un chant, qu'on va dire, plutôt souple, ininterrompu, et qui suit le rythme du texte et le rythme, on va dire, mélopé, dans un geste souple. Je vais vous chanter, par exemple, un extrait de plein chant, un Kyrie. Kyrie. Notre-Dame est en train de sortir de terre à ce moment-là. Et une scola de 6 chanteurs, qui vont être triés sur le volet, 6 chanteurs virtuoses, vont révolutionner quasiment la manière de faire la musique. Notamment avec 2 maîtres de chapelle, 2 parce qu'il n'y en a que 2 qui nous sont restés dans l'histoire de la musique, probablement il y en avait d'autres, qui s'appellent Léonin et Perrotin. D'une part, le rythme va être fractionné, formellement, avec des valeurs brèves et des valeurs longue. Et chaque chanteur aura sa propre ligne, sa propre voix. Ainsi, la polyphonie naît à cet endroit, par l'individualisation des chanteurs, donnant la possibilité d'une écoute complètement nouvelle. Alors, voici un exemple de polyphonie grâce à la technologie, puisque je vais chanter avec moi-même, je me suis déjà enregistré. La fin d'un Kyrie, le Eleison, a 3 voix. Voici la ligne du haut. Cette ligne-là est avec une autre ligne, et je vais vous chanter avec ces 2 lignes-là. Cette fois-ci, les 2 voix ont été enregistrées. Je chante la 3e. Et... remarquerez ici qu'il n'est question que de messieurs. Les dames ne chantent pas. C'est aussi une question qui va marquer les époques, à partir du moment où les dames vont pouvoir chanter avec les messieurs, notamment à l'église. La polyphonie que j'ai chantée va encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle est faite pour des voix qui se ressemblent. C'est pour ça que j'ai pu la chanter d'ailleurs. Une autre manière est de se mettre à plusieurs pour chanter une polyphonie. Ça va être la naissance du choral. Le choral, c'est un chant principal qu'on appelle le cantus firmus, accompagné par d'autres voix, trois ou quatre, voire même cinq voix. Le maître du choral, c'est évidemment Jean-Sébastien Bach. Mais avant lui, Telemann, Buxtehude, en ont écrit. Le choral se distingue par le fait que la mélodie, le principal, le cantus firmus, est une mélodie que le peuple connaît. C'est-à-dire qu'on va être plusieurs, voire même très nombreux, à chanter une seule ligne, avec une polyphonie elle-même chantée par plusieurs. Vous voyez, on a fait un saut déjà dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'époque baroque. Il y a pour moi, dans l'histoire aussi, de la musique, un mouvement de bascule très significatif. À partir du moment où le « qui chante avec moi » devient « qui joue d'un instrument avec moi ». Grosso modo, la fin du XVe siècle. À l'époque médiévale, puis Renaissance, XIIe au XIVe siècle en musique, seul le chant donc a le droit de citer à l'Église. Car c'est le seul moyen de transcendance vers Dieu. Sans médias, l'instrument est vil. Il est bon pour les fêtes de village, pour les troubadours. Le chant est dit a cappella. L'effectif des chanteurs est, lui, très variable. En fait, on chante parfois à 2, à 3, à 4, souvent à 5, parfois à 7, mais ça monte jusqu'à 40. On a deux exemples de motets écrits à 40 voix. Mais chaque chanteur est seul à chanter sa propre voix. À l'époque classique, basculement, 17e siècle, l'instrument de musique a gagné de l'espace et du temps, et le chant dit a cappella n'existe quasiment plus. Quand je chante quasiment tout le temps avec des instruments, ce qu'on appelle le continuo. Je terminerai en parlant du mouvement orphéonique en France. Je fais un petit saut dans le temps, qui a embrassé un siècle d'histoire, entre 1850 et 1950 approximativement. Et ce mouvement est lié à l'éducation populaire. Il avait vocation à faire chanter les ouvriers entre eux. Ainsi, beaucoup de chorales masculines ont vu le jour à la deuxième moitié du 19e siècle. Le répertoire s'est très vite enrichi et de grands compositeurs comme par exemple Léo Delibes, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns ont écrit pour ces orphéons, c'est-à-dire des chorales populaires. Ce mouvement va se développer vers le chœur d'enfants et va accepter les femmes également à chanter avec. Je trouve très intéressant de voir que dans le 19e siècle, siècle orchestral par excellence, et où la musique vocale finalement devient satellitaire, un mouvement musical naît qui est un mouvement choral, et j'allais dire 100% choral. Et à certains égards, quand on croit ce mouvement-là avec l'opérette, on a notre variété française. Ce mouvement-là va donner aussi, plus tard, le mouvement à cœur joie. Et ce mouvement pose le principe d'une accessibilité à toutes et tous, quelle que soit notre histoire avec la musique, pour accéder au grand répertoire classique, grand répertoire choral. Et cette posture prend complètement le contre-pied du conservatoire. Je dois dire que cette controverse n'est pas du tout soldée. En contrepoint, on peut aussi se demander de l'avenir des nombreuses productions chorales que nous avons vues ces derniers temps de confinement, où les chanteurs ont essayé de reconstituer des chorales virtuelles en chantant chacun devant son ordinateur, devant son micro, et en superposant l'enregistrement des uns et des autres. Finalement, ça fait écho à ce que beaucoup de YouTubeurs, par exemple, avaient fait déjà depuis une dizaine d'années, en s'enregistrant sur plusieurs voix, un peu comme je l'ai fait pour le Kyrie. Voilà, par exemple, un nouveau rapport du chanter ensemble. Fera-t-il histoire? Je n'en sais rien. En tout cas, ce que nous savons dans le mouvement choral, c'est que le contact réel, vrai, entre les chanteurs et les auditeurs manque cruellement. J'espère vous avoir mis un peu l'eau à la bouche, si j'ose dire en parlant de chant, et d'avoir sollicité chez vous l'envie que lorsque vous écouterez des chanteurs chanter, de mesurer que leur rencontre musicale est le résultat d'une volonté musicale et en même temps le désir de marquer une forme musicale. Ou, dit autrement, que l'effectif des chanteurs dit beaucoup sur la musique qu'ils sont en train de chanter. Et aussi, dit beaucoup sur la façon dont ils abordent la manière de l'interpréter. Quelle que soit l'époque, notre système de résonance, doublé par la résonance des acoustiques naturelles, des lieux, nous ont permis en Europe de composer des types de musique, monophonique ou polyphonique, tout seul ou à plusieurs, parfois très nombreux. Dans tous les cas, les vibrations sympathiques entre les chanteurs ont quasiment toujours œuvré pour que ce qui lie plusieurs chants soit en harmonie. J'aurais plutôt tendance à dire en harmonique. Car pour ne pas confondre avec la consonance et la dissonance, qui, toutes les deux, doivent être en relation harmonique. À ce propos de consonance-dissonance et de résonance harmonique, je vous invite à regarder le très fameux épisode de l'inénarrable série télévisée Kaamelott, La quinte juste, du très talentueux Alexandre Astier. Voici un épisode qui narre, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque d'Arthur, le conflit qu'on a entre des intervalles dits consonants et des intervalles dits dissonants. Mais l'un et l'autre, en fait, sont dans la résonance harmonique. Et quand les modernes aiment faire la tierce qui déplaît aux anciens, finalement, cette tierce-là est aussi une résonance harmonique. D'une certaine manière, le chanter induit le ensemble. Notre résonance appelle celle de l'autre, accompagnant ainsi une sorte de geste d'humanité naturelle. J'espère vous avoir donné envie de chanter avec d'autres, tant les possibilités qui nous sont offertes sont nombreuses. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Au revoir.